Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 septembre 1970, la mort de Nasser. Le 28 septembre 1970, Gamal Abdel Nasser décède d'une crise cardiaque. L'Égypte pleure celui qui lui a rendu son prestige. Le 1er octobre, au Caire, 5 millions d'Égyptiens s'emparent du cercueil du Raïs et le portent en terre dans un ultime hommage. La police peine à protéger de l'asphyxie les chefs d'État présents. Le peuple célèbre son héros. Premier Égyptien authentique à prendre les rênes du pays depuis le temps des pharaons, ce fils de postier, né à Alexandrie le 15 janvier 1918, passe sa jeunesse dans sa ville natale et poursuit ses études au Caire. Très tôt, le nationalisme marque la personnalité du futur Raïs. En dépit d'une indépendance accordée en 1922, la Grande-Bretagne occupe toujours l'Égypte. Nasser ne peut se satisfaire de la signature en 1936 d'un traité anglo-égyptien qui limite la présence britannique durant 20 années aux rives du canal de Suez. Cet accord procure également aux troupes britanniques le droit d'intervenir sur l'ensemble du territoire égyptien en cas de menace internationale. En 1937, Nasser intègre la première promotion de l'Académie militaire égyptienne avec le grade de sous-lieutenant. Envoyé au Soudan, il rencontre des officiers aussi nationalistes que lui, comme Zakaria Mohedin ou Anwar el-Sadat. Ensemble, ils promettent de libérer l'Égypte. Nommé professeur à l'Académie militaire, le lieutenant-colonel Nasser s'illustre en 1948 à Fallujah, en Palestine, contre l'armée du jeune État d'Israël. La défaite arabe est une véritable humiliation. Pour réagir, Nasser constitue le mouvement des officiers libres, première étape de la révolution égyptienne qui conduit à la déposition du roi Farouk dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952 et à la proclamation de la République arabe d'Égypte le 18 juin 1953, avec le général Mohamed Naguib comme président du Conseil de la Révolution. 6 millions d'ouvriers, de fellahs et de jeunes Égyptiens scandent « Avec l'armée, avec le peuple, nous continuerons notre route ». Les frères musulmans, qui prônent une renaissance islamique et auprès desquels Nasser et Sadat ont acquis leur vision du monde, applaudissent. Le héros de la révolution égyptienne est membre de cette confrérie islamique de 1944 à 1948. En 1946, il s'engage dans sa branche militaire. Mais rapidement, Nasser s'oppose aux frères musulmans, considéré comme l'ultime obstacle à son autocratie. En 1954, il se débarrasse de Naguib pour prendre seul les rênes du pouvoir. La même année, victime d'une tentative d'assassinat attribuée aux frères musulmans, il interdit la confrérie et emprisonne plusieurs milliers de ses membres. En 1966, Sayed Kopp, le principal penseur du mouvement islamiste, est pendu. Le nouveau régime réforme l'université Al-Azhar du Caire. Désormais, les religieux prêchent l'idéologie nassérienne qui envisage la religion comme un instrument de légitimation de l'ordre social. Le Raïs devient le héros des foules arabes. En matière diplomatique, il prône le tiers-mondisme et une neutralité apparente à l'égard des États-Unis et du bloc soviétique. À l'intérieur, il nationalise les banques et le canal de Suez. Il expulse les Britanniques et impose une réforme agraire. En juin 1967, durant la guerre des Six Jours, la victoire d'Israël sur l'Égypte, la Jordanie et la Syrie signe le début de la fin du nationalisme arabe. Pourtant, les Égyptiens n'imputent pas à Nasser cette terrible défaite et la perte du Sinaï. Démissionnaire le 7 juin, il est rappelé deux jours plus tard par la population. Perdre la guerre et perdre aussi Nasser est insupportable, écrit le journal Al-Gumuyria. Cependant, dès février 1968, l'Égypte vacille. Le pays est secoué par des manifestations qui exigent le châtiment des traîtres. Le raïs évince les militaires du gouvernement. Les secousses politiques vont de pair avec la détérioration de la santé du président égyptien atteint par un sérieux diabète. Les médecins lui prescrivent repos et éloignement des affaires. Son affaiblissement provoque la déroute du panarabisme, l'islamisme, le pétrole et la résistance palestinienne deviennent les nouveaux moteurs du monde arabe. La mort du raïs met un terme aux élans populaires en faveur des régimes arabes. Nouvel homme fort de l'Égypte, Sadat fait arrêter le 15 mai 1971 les barons de la gauche nassérienne. Cette opération prend l'appellation de révolution correctrice. Dans la foulée, il fait démolir le pénitencier de Toura, les frères musulmans sortent de prison. Le 11 septembre suivant, le président égyptien souligne le caractère musulman du régime. En 1972, 12 000 soviétiques sont expulsés. 6 ans plus tard, l'Égypte signe une paix séparée avec Israël. Le rêve nassérien d'unité arabe est bien mort. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. Avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire, nous écoutons Nicoletta, Il est mort, le soleil.
Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Il est mort. Il est mort le soleil. Mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier on dormait sur le sable chaud. Hier pour moi il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. Il est mort. Il est mort le soleil. L'ombre est sur ma vie. Dans mon cœur la pluie. Et mon âme s'habille de gris. Hier quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Séparés.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Aujourd'hui, un livre consacré à la vie quotidienne à l'Élysée, sous l'œil d'un général, chef d'état-major particulier du président de la République, c'est Emmanuel qui vous présente cette chronique. Je lui cède la parole.
Bonjour à tous, nous allons pouvoir parler des ors de la République, souvenir de 7 ans à l'Élysée. C'est écrit par le général Henri Benteja et c'est publié aux éditions Perrin. Adjoint du chef de l'état-major particulier de François Mitterrand, puis chef de l'état-major particulier de Jacques Chirac entre 1993 et 2002, le général Benteja a passé 7 ans en tout au sommet de l'État, auprès de deux présidents successifs, François Mitterrand et Jacques Chirac. Il nous livre ici son témoignage, écrit d'une plume élégante, sans complaisance, mais aussi avec beaucoup d'humanité. Il raconte la vie quotidienne au château, entre guillemets, l'Élysée, ses bureaux, ses recoins oubliés, y compris sa chapelle, les faces, les rivalités de la cour, le quotidien des conseillers, mais aussi des sans-grades, les méthodes de travail orchestrées par deux remarquables secrétaires généraux que furent Hubert Védrine et Dominique de Villepin. Sans oublier les grandes questions militaires qui furent de sa compétence et souvent d'envergure internationale dans cette période particulièrement dense. Guerre balkanique, Rwanda, intervention en Côte d'Ivoire, crise irakienne, essais nucléaires, abandon du service militaire, etc. Il nous livre aussi des portraits, à commencer bien sûr avec déférence, ceux des deux présidents, homme qu'il a visiblement beaucoup apprécié. C'est ainsi que sont retracées leur intelligence, leur qualité, mais aussi leur travers, le tout dans un sens de la nuance tout à fait remarquable. Il raconte avec humour les sommets internationaux, les dîners d'État, la difficulté de certaines personnes qui tiennent absolument à être invitées, la fabrique des discours, les rencontres officielles et les rencontres insolites, les tensions, en particulier lors des cohabitations, mais aussi les grands moments d'émotion, notamment au regard de la maladie de François Mitterrand. Voici donc 7 ans de présence à l'Élysée. Ce n'est plus quand Versailles nous est compté, mais quand l'Élysée nous est compté. Les ors de la République, souvenir de 7 ans à l'Élysée, du général Henri Benteja aux éditions Perrin. Ainsi s'achève cette émission, et un grand merci à Lucas qui l'a techniquement retracée.
Et nous nous séparons en chanson avec toujours Nicoletta. Nous écoutons Mamie Blue.
J'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait.
Oh ma mère, ma mère bleue, oh ma mère.
je te reviens. Et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin. Oh, si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir. Et je n'ai plus qu'à repartir, repartir.
Oh mamé, oh mamé, mamé blue. Oh mamé blue.
Oh mamé, mamé blue.
Oh mamé, mamé blue. Oh mamé blue.
La maison a fermé ses yeux. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais.
Thank you.